Cette émission vous est proposée avec la fulgurante participation de Guillaume Fono, Gemineo, Olrin, Pac-Man, Marion Van de Waal, Bruno L, Thierry Jacqueline, At Ludo Olège, Anthony Corrado, Jérôme Cavu, David Kiblier, Babark Cabé, Jean-Christophe Bussière, JB Deluxe et Samuel Kravjik. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. J'ai failli dire jeux vidéo parce qu'on est dans la semaine de l'E3, la grande célébration du jeu vidéo annuel. Mais on a évidemment la WWDC également, la conférence pour développeurs d'Apple qui va nous occuper un bon moment. Je suis Patrick Béja et grâce à nos deux co-animateurs, j'espère que vous aurez un compte-rendu suffisamment complet et résumé et expliquer pour ne plus avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Le rendez-vous tech vous suffira. Je pense que ça sera le cas puisque nous avons d'une part mon compère de toujours, Jérôme Kainborg. Comment ça va, Jérôme ?
Bonjour, bonsoir à tous selon l'heure où vous nous écoutez. Ça va bien, fatigué, je crois que toi aussi, Patrick.
Oui, un petit peu. On va peut-être en dire un mot dans un instant, mais avant ça, accueillons Benoît Curdy, Ben, qui nous rejoint depuis sa maison de Nipcast. Comment ça va, Ben ?
Salut, très bien, pleine forme. Écoute, moi, rien à dire, aux petits oignons, j'étais me faire masser ce matin, tout bien. Donc voilà, je vais essayer de faire l'énergie pour trois. Allez, comme ça, vous pouvez vous reposer un peu.
Effectivement, bah, comme j'en parlais avec Jérôme avant l'enregistrement, j'ai fait le calcul, je ne sais pas si je t'avais dit, mais j'ai fait le calcul. En 4 jours, j'ai 15 émissions ou streams. 15 en 4 jours, crois que je n'ai jamais fait ça. C'est... Donc bon, j'espère que je serai à la hauteur quand même pendant celle-ci. Jérôme, je sais que toi t'as été quand même très occupé aussi.
Bah disons que ça fait beaucoup moins d'émissions, mais la vidéo ça prend beaucoup plus de temps.
On a beaucoup
de choses là qui sortent du portique, ouais.
Ouais ouais. Donc bon, bah écoutez, c'est avant l'été, la grande fête du jeu vidéo et de la tech, c'est très bien. On avait Google I/O il y a 2 semaines, on a la WWDC cette semaine, on a aussi l'E3 comme je le disais avec quelques informations sur le monde du jeu vidéo. On va vous parler de ce qui est de ce qui a rapport avec la tech. On a également quelques infos en plus, comme le rachat de Microsoft, de LinkedIn par Microsoft, complètement fou, des infos qui traînent par-ci par-là également. Mais commençons par ce qui va sans doute nous occuper pour la plus grande partie de l'émission, c'est-à-dire les annonces et les changements dont a parlé Apple pour la WWDC pour ses 4 systèmes d'exploitation, à savoir WatchOS, tvOS, OS X qui est devenu macOS et iOS 10 qui a occupé une bonne partie de leur conférence. Ils avaient 2 heures de conférence, donc un truc assez dodu, bien rempli, on va dire ça comme ça. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre chaque système d'exploitation, d'en parler un petit peu rapidement et puis vous me dites ce que vous avez retenu. Pour les 3 premiers, ça va aller relativement vite et puis on passera un petit peu plus de temps sur iOS. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire avant qu'on se lance ?
Non, moi je pense qu'il faudrait tout déstructurer. On parle en vrac de n'importe quoi sans les classer dans les 4 systèmes d'exploitation. Je pense que ça serait...
Jérôme, il fait du podcast post-moderne en fait. C'est ça.
Exactement,
son
il faut
idée.
Déstructurer. Je fais du podcast cubiste un petit peu, tu vois. Il faut aller au-delà de la forme linéaire du podcast.
Écoute, on essaiera peut-être pour le prochain. Mais pardon,
c'est une bonne idée parce que tu peux dire une caractéristique et nous on doit deviner auquel ça
exactement,
appartient.
Exactement, le géopardie de la WWDC. Si je vous dis localisé par pays, je parle de quoi ?
les cartes de iOS 10.
Non, je parlais de SOS Call sur WatchOS 3.
Ah, Damien, bien sûr. Ah, bon, bah écoute, visiblement, ça marche pas très bien. On va donc se lancer dans une couverture un peu plus structurée. Et on va commencer avec WatchOS 3 qui, alors tous les OS, tous les systèmes d'exploitation ont été détaillés aujourd'hui, enfin hier au moment où on enregistre. Il n'y a pas eu d'annonce matérielle et ils seront disponibles aux développeurs dès maintenant et ils seront disponibles, enfin sortis au grand public, il y aura une bêta publique, mais vraiment disponible pour le grand public à l'automne, sans doute avec des annonces matérielles. On attend peut-être des annonces matérielles dans chaque catégorie, c'est-à-dire possiblement une nouvelle montre, une nouvelle Apple TV peut-être, certainement des nouveaux MacBook Pro et évidemment un nouvel iPhone, sans doute pas de nouvel iPad, mais ça fait quand même beaucoup de choses dont ils devront nous parler à l'automne. En attendant, donc, parlons un petit peu de WatchOS 3 qui arrivera, comme je le disais, cet automne. D'une manière générale, ils se sont concentrés sur l'optimisation et sur la rapidité de l'interface utilisateur, c'est-à-dire que les applications seront disponibles dans la montre et tourneront dans la montre entièrement et elles resteront en mémoire, ce qui fait qu'elles se lanceront immédiatement au lieu d'attendre ce chargement qui était assez pénible. Il y a une refonte de l'interface avec un dock qui va remplacer l'accès aux contacts. On va accéder à nos applications favorites directement en appuyant sur un bouton sur la montre. Il y a un control center qui ressemble un petit peu plus à celui d'iOS. Il y a la possibilité, comme sur Android Watch, de répondre en faisant des petits caractères écrits au doigt si on ne peut pas répondre autrement. D'une manière générale, j'ai l'impression que c'est plein de fonctionnalités qui seront peut-être sympathiques, mais que ça va bouffer pas mal de batterie, donc je sais pas comment ça va se passer exactement. Il y a aussi d'autres petites choses comme des exercices de respiration, dont il est facile de se moquer, mais la respiration, ça fait partie de la méditation, et ça peut franchement avoir des bénéfices intéressants pour la santé. Il y a une fonctionnalité qui appelle les services d'urgence si vous laissez appuyer sur le bouton de la montre pendant plus de 3 secondes, ça va immédiatement contacter les services d'urgence, envoyer un message à vos contacts d'urgence et afficher vos informations médicales sur la montre. Donc ça peut être pratique aussi, etc. C'est etc.
Surtout, ouais, je rajoute juste, parce que SOS Call, là où c'est pas gadget du tout, c'est que ça marchera où que vous soyez dans le monde, en fait. Parce que souvent, quand on est à l'étranger, qu'on a un problème, on ne sait pas quel est le numéro d'urgence. Et il le fera pour vous et vous n'aurez pas besoin d'un forfait d'appel pour que la Watch appelle directement le service
c'est
d'urgence.
C'est ça. Ça, elle le fait par votre montre ou par le Wi-Fi si vous êtes connecté en Wi-Fi. Et ça, c'est déjà le cas. Si vous connaissez le numéro du service d'urgence, ben, ça l'appelle sans frais où que vous soyez dans le monde. Mais là, ça le fera automatiquement. Ça connaît les numéros d'urgence. C'est presque à se demander pourquoi c'était pas déjà le cas avant. Mais donc, voilà pour les fonctionnalités.
Juste pour dire, il y avait l'Inde qui a annoncé il y a quelque temps que ça serait obligatoire pour tous les mobiles vendus sur le territoire. C'était dans le cadre des violences envers les femmes dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Et donc, il semblerait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ces panic buttons. Hein. Est-ce que c'est bon signe par rapport à notre société? Je suis pas certain, mais bon.
Ah bah ça, la violence diminue partout, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser si on regarde beaucoup la télé. Mais oui, le truc c'est que à l'origine le fait que les numéros soient différents partout, c'est un petit peu bête même, je dirais. Là pour le coup, c'est pas pour faire de l'américanofolie à outrance, mais le fait si on avait le 911 partout, le 911 partout, tout le monde le connaît à cause des films et des séries et ça serait quand même plus simple pour tout le monde. Mais bref, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette WatchOS 3 rapidement?
Benoît.
Ouais, il manque que la killer app. Il manque qu'une raison de la porter toujours. Non, mais je trouve que ça va dans la bonne direction. C'est très bien, mais ça me fait penser à tous ces produits qu'on raffine, mais qui finalement n'ont pas trouvé leur vocation. Moi, je la classe toujours un petit peu dans les Google Plus, cette montre. Alors, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais sincèrement, plus rapide, voilà. Très bien.
C'est pas ça qui va te faire, qui te fait changer d'avis sur la montre. C'est juste qu'elle fait ce qu'elle faisait avant, mais plus vite. Donc
voilà.
Jérôme?
Moi, j'ai peut-être une expérience différente parce que l'Apple Watch, elle n'a pas quitté mon poignet depuis le jour où je l'ai acheté. Je la porte, sauf exception, tous les jours. Et j'y trouve de véritables utilités. Mais justement, et c'est là où WatchOS 3 va dans le très bon sens, à mon avis, Apple a enfin compris, je pense, qu'ils avaient fabriqué. ils ont mis le temps. Mais je pense que justement, ils ont rassemblé beaucoup d'informations sur ce que nous, utilisateurs, on faisait véritablement au bout d'un an sur une Apple Watch. Passé, on va dire, les 2-3 premiers mois où on s'est amusé même à faire des jeux vidéo, ce qui était ridicule sur notre Watch. Moi, je sais que depuis un an et demi que je la porte, et je l'ai dépouillée presque au maximum. J'ai enlevé quasiment toutes les notifications, mais j'ai des choses qui me sont devenues indispensables. C'est toutes les fonctionnalités qui me prennent moins de 2 à 3 secondes à faire. Et au-delà de 3 secondes, j'estime que ça sert à rien que ça soit sur la Watch. C'est vraiment pour des trucs très instantanés.
Tu peux donner un ou deux exemples pour les gens qui sont pas adeptes?
C'est tout con, mais ce qui me sert le plus, moi, dans mon Apple Watch, c'est la gestion de mon temps. Une gestion de pouvoir, comme ça, avec la molette, aller en avant ou en arrière sur mon agenda pour voir mon prochain rendez-vous ou le rendez-vous qui vient de se terminer ou ce que j'ai le lendemain ou ce genre de choses. En fait, c'est une gestion intelligente du temps. Donc, tout ce qui va me permettre de gérer intelligemment le temps, pour moi, c'est la fonction première de cette montre. C'est une véritable smart watch. C'est-à-dire que c'est avant tout une montre. Et elle a des fonctionnalités intelligentes dans la gestion du temps. Pour prendre un rendez-vous rapidement, c'est assez pratique de noter son rendez-vous sur l'Apple Watch plutôt que de sortir son smartphone et de rentrer tout le rendez-vous dans le calendrier. Donc, c'est faisable. La deuxième fonction, moi, dans laquelle je l'utilise le plus, c'est la gestion d'un certain type de SMS, c'est-à-dire tous mes SMS courts. Les SMS où je réponds en 3 à 5 mots, j'arrive, je suis un peu à la bourre. Je suis bientôt là, c'est quoi ton code? Voilà, ces petits messages SMS qui sont très utiles, de ne pas avoir à sortir mon téléphone et de pouvoir les faire directement sur quelque chose que j'ai au poignet, ça m'est extrêmement utile. D'accord. Mais en gros, à part 2-3 autres petits trucs, c'est 80% de mon utilisation de la Watch, c'est ça, quoi.
Et donc, mais là, ça va. Utile. Ouais, là, ça rationalise un petit peu ce type d'utilisation. Donc pourquoi pas. Pour moi, il y a d'une part quelques trucs qui sont sympas. J'ai souvent dit que je m'en servais pas du tout de cette montre. Je l'ai un petit peu portée au Japon parce que c'était pratique pour avoir les horaires de trois pays différents. Quand j'étais au Japon, ça m'était très pratique. Là, les exercices de respiration, c'est quelque chose que je vais peut-être essayer quand ça sera disponible, parce que j'ai essayé un petit peu la méditation et c'est vrai que ça a des bénéfices, mais je suis toujours, c'est ridicule, mais j'arrive jamais à trouver 10 minutes pour le faire, alors que 10 minutes c'est rien, mais je me dis peut-être que si c'est sur mon poignet et que ça me le rappelle régulièrement, bon, peut-être, mais j'ai plus l'impression que ce sont des fonctionnalités un petit peu intéressantes, mais qui vont devoir attendre la nouvelle version du matériel pour vraiment s'exprimer, un petit peu comme c'est le cas depuis des années avec iOS. On a des fonctionnalités sympas qui arrivent avec l'annonce du nouvel OS en juin, et puis ensuite quand on a le nouveau matériel, on a encore plus, en fait, un package plus complet qui s'exprime un peu mieux. Je me demande si ça va pas être la même chose avec la montre, avec l'arrivée d'une deuxième Apple Watch, peut-être à l'automne.
Est-ce que tu utilisais la fonction tu sais, stand, de te rappeler de te lever
sur, moi je l'utilise beaucoup, moi, ouais. En fait, quand tu fais du montage vidéo, le temps et l'espace disparaît complètement. Et moi, je me lève quand ma montre me demande de me lever. Et c'est moi, en plus, bon, j'ai des petits problèmes circulatoires, de circulation sanguine, donc je le fais. C'est à peu près le seul exercice que je fais en dehors de la marche. Mais oui. Et le fait, je le ferais pas si c'était sur mon iPhone, en fait.
Ouais, moi je vire la notification à chaque fois qu'elle apparaît, mais je la laisse pour qu'elle apparaisse. Donc c'est un petit peu
pour la culpabilité, tu vois, pour ressentir la culpabilité. Un petit truc à ajouter, moi, qui m'intéresse beaucoup dans ce WatchOS 3, c'est le fait que ça va permettre de déloquer son Mac avec sa montre. C'est-à-dire, il n'y aura plus besoin de rentrer son code dans son ordinateur à partir du moment où vous avez l'Apple Watch au poignet. gagner, ça déloquera en fait votre Mac. Et ça, je trouve ça assez pratique.
Ouais,
c'est très bien. Ouais.
Il y a des applications tierces qui font déjà ça, mais c'est vrai que le fait que ça soit intégré, c'est une petite fonctionnalité en plus, c'est pas mal. Ouais. Par contre, j'ai pas l'impression que ça marchera avec le téléphone. C'est uniquement avec la montre. Donc,
oui, c'est uniquement avec la montre et ton Mac.
Ouais, pour des raisons de sécurité, montre est authentifiée. Oui, exactement. La montre est authentifiée parce que tant que tu l'enlèves pas, ben on part du principe qu'elle est toujours à ton poignet et que donc c'est bien toi qui es là. Donc. Ouais. Ensuite, tvOS. Alors vraiment, c'était la partie la plus courte. Il y a une nouvelle application de télécommande sur le téléphone. Il y a Siri qui va permettre de chercher dans YouTube, par exemple, qui va vous permettre de lancer une application, donc lancer une chaîne en fait. Ils ont montré Molotov TV d'ailleurs. Il y a le single sign-on, le login unifié. Ils n'ont pas donné les détails sur la manière dont ça fonctionnait, donc on n'est pas sûr de quelle technologie ils utilisent et de s'il y aura des applications en France qui l'utiliseront aussi. Mais bon, c'est sûr que c'est pratique d'avoir un login unifié pour pas avoir à se loguer individuellement dans chaque app. Ensuite, bon, quelques petits trucs en plus. Pas grand-chose à dire sur ce nouveau tvOS, j'imagine, pour vous non plus.
Non, c'est sympa d'avoir Siri de plus en plus. Je pense qu'on voit hein, de toute manière que autant dans la rue, on n'interagit pas avec son téléphone ou sa montre avec la voix, autant à la maison, il semblerait des données d'Amazon qu'on interagit très volontiers. Donc, c'est tout à fait logique qu'il le fasse. Mais comme tu dis, de nouveau, là, on est dans l'itération, à part que c'est un produit qui roule bien. Enfin, j'entends que des bons feedbacks sur tvOS et là, ça ne va pas changer.
Moi, ouais, le fait que effectivement Siri va intégrer YouTube, ça permettra à tout le monde de dire quelle est la nouvelle vidéo de Nowtech TV, répétez après moi. Et sinon, c'est tout con, hein, mais le dark mode. C'est vrai que j'aimais pas beaucoup le fond blanc de l'Apple TV. Je trouve ça m'agressait un peu les yeux quand on est dans l'obscurité et de pouvoir mettre un fond noir, c'est con, mais il fallait le mettre.
D'accord. Voilà. Pour macOS, donc la nouvelle version qui s'appelle Sierra, là ça intéresse un petit peu plus Ben. Donc il y aura cette fonctionnalité auto unlock, il y a le clipboard universel, le copier-coller universel qui vous permet de copier-coller du texte ou des images, etc. depuis un mobile jusqu'à macOS et inversement. Il y a Apple Pay qui arrive sur le web, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va payer sur le web et on va s'authentifier avec notre téléphone pour confirmer le paiement. Donc, ça permet de pas avoir à re-rentrer les numéros de carte bleue ou à les garder systématiquement chez le vendeur. Et d'ailleurs, Apple Pay arrive en France dans les mois à venir. Donc, enfin, ça va arriver chez nous aussi. Peut-être pas chez toutes les banques. Hein. Ça, c'est un élément dont il faut se souvenir, c'est qu'Apple Pay n'est pas forcément chez toutes les banques. Il y a également le fait de garder encore plus de documents et même tous vos documents sur iCloud et le fait qu'il y ait qu'il conserve les documents automatiquement et dynamiquement, vos vieux documents et même votre corbeille sur iCloud de manière à libérer de l'espace disque sur votre Mac. Donc ça peut être pratique et ensuite il vous les renvoie à la demande si vous voulez accéder à un fichier. Alors évidemment, il y aura toujours des gens pour dire, et ils n'auront pas tort, que si on est dans l'avion ou dans un endroit où on n'a pas de réseau et qu'on a besoin d'un fichier qu'on n'a pas utilisé depuis un moment, on risque de ne pas le récupérer. Oui, c'est vrai, mais ce genre de désagrément, je pense, est compensé par l'agrément d'avoir un petit peu plus de place sur son disque dur. Surtout si on veut acheter une machine qui est un petit peu moins chère avec moins de place, ça peut être pratique, je pense, surtout pour des machines plus légères comme des nouveaux MacBook ou des MacBook Air. Et d'ailleurs, Dropbox a annoncé qu'ils allaient implémenter une technologie un petit peu similaire bientôt. Donc, on se retrouve un petit peu là. Et enfin, il y aura des onglets dans toutes les applications. un mode picture-in-picture pour la vidéo sur macOS tel qu'il existait sur iOS depuis l'année dernière. Siri qui arrive sur macOS, ça c'est un gros morceau évidemment, qui est assez bien implémenté. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il fonctionne pas mal. On peut faire des recherches sur le web, on peut sauvegarder les résultats des recherches qu'on a fait avec Siri, on peut faire des requêtes sur des fichiers et puis demander des requêtes qui suivent la première requête qu'on a fait, etc. etc. Il y a plein de petites choses comme ça avec Siri. C'est une mise à jour qui est pas non plus incroyable, mais bon, il y a des petits trucs intéressants, je pense. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de tout ça?
Ouais, moi, je reste avec les deux points. Hein. Siri, partout, c'est important pour l'expérience unifiée. Ça, c'est, ils le font très bien, donc ça me réjouit. Et puis, c'est vrai que la gestion dynamique de tout ce qui est fichier, c'est quelque chose aussi que je me réjouis de voir à l'avenir. C'est vrai, bah, typiquement, que je ne fais pas trop de vidéos, mais j'en fais quand même un petit peu. Et c'est toujours voilà, l'espace disque est denrée rare. Donc, tout ce qui va dans ce sens-là me réjouit beaucoup.
Moi, c'est exactement pareil. C'est certainement le truc qui m'intéresse le plus, c'est l'optimisation du stockage. Je suis un peu fatigué. Du stockage par le cloud, avec une information importante qu'ils ont passée à l'AS. Moi, je veux bien, mais combien ça va me coûter cette histoire, les forfaits iCloud, parce que ouais. Ils sont quand même plus chers que la concurrence en termes de stockage cloud. Donc, si c'est pour payer un Mac moins cher, parce que je prendrai un disque dur plus petit, mais derrière me faire pomper mon argent parce que je suis obligé de prendre un iCloud plus épais, c'est un peu prendre de l'argent dans une poche pour la mettre dans l'autre, hein.
Oui, non, tout à fait. T'as raison de le signaler. Ouais, c'est vrai.
Ouais. Puis bon, il y a quand même un truc. Alors là, j'espérais vraiment qu'on aurait des nouvelles aussi sur le hardware. Parce que bon, Mac, Sierra, macOS, c'est chouette, mais j'attends quand même la nouvelle itération des MacBooks et on ne voit rien venir. Alors, on entend ces rumeurs folles comme quoi ils auront des nouveaux claviers, que tout sera changé, mais bon, ça sera pour quand alors?
Alors, a priori, ça serait pour cet automne. Effectivement, ouais. On a des rumeurs très persistantes sur des nouveaux Mac qui auraient peut-être un Touch ID, mais ça n'a pas l'air de se confirmer. Mais par contre, ce qui se confirme, c'est une barre de touches de fonction en haut, c'est pour les MacBook Pro a priori, donc une barre de touches de fonction qui serait un écran OLED tactile. Et donc ça permettrait d'avoir différentes fonctions effectivement en fonction de l'application qu'on utilise, qui s'afficherait sur cette petite barre OLED, cette barre d'écran, et qui permettrait d'avoir les touches nécessaires pour l'application en question. Moi, je trouve ça pas mal, je trouve ça pas bête, effectivement. C'est l'endroit, en fait, où ça pourrait être cohérent d'avoir un écran tactile à la place du clavier. C'est le seul endroit où ça pourrait être cohérent. Le mettre ailleurs, ça n'a aucun sens, mais sur ces touches de fonction, peut-être, pourquoi pas. Ça devrait arriver cet automne. C'est à peu près la chose qu'on a entendue. Il y a d'autres choses, mais bon, ça reste à l'état de rumeur.
Si ça n'arrive pas cet automne, je retourne sur Windows. J'ai assez attendu. Là.
Je crois qu'ils t'ont entendu et que justement, ils vont mettre les bouchées doubles. Hein.
Oui, bon, tu vois, il faut les motiver.
Bon, la dernière version, c'était en mars, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de changement majeur. C'était simplement en mars dernier. Enfin, en mars, il y a un an, un petit peu plus d'un an. Mais c'est généralement tous les 18 mois, les renouvellements. Là, il semble que les MacBook Pro soient redesignés un petit peu, peut-être même un peu plus fins. Il y a des ce genre de rumeurs. Donc, bon, ça arrive. Un peu de patience, Ben.
D'accord.
Et donc, le gros morceau de la conférence, ils ont passé plus d'une heure dessus, c'est iOS 10. Et il y a énormément de choses, donc je ne vais pas parler de tout, évidemment. Je vais essayer d'en résumer l'essentiel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont modifiées ou améliorées. Donc, voilà, ce dont je vais parler, je vais essayer de couvrir autant que possible. L'écran de veille est accessible, en fait, en levant le téléphone, ce qui permet aux gens qui ont les tout derniers Touch ID hyper rapide de regarder ce qu'il y a sur leur écran de veille sans débloquer. Moi, ça m'arrive tout le temps maintenant, débloquer immédiatement le téléphone. Beaucoup plus d'actions 3D Touch, énormément d'actions 3D Touch avec des widgets dans les notifications qui sont accessibles donc depuis les notifications et depuis l'écran de veille en appuyant sur une application, des notifications beaucoup plus riches, redesignées. Il y a la possibilité d'accéder à la caméra simplement en swipant à droite et en accéder au widget en swipant à gauche. Il y a Siri qui est ouvert aux développeurs, enfin, on en parlait depuis longtemps, là ça arrive enfin. Il y a Siri qui est intégré dans le clavier en fait et qui va reconnaître, en plus de ses suggestions et du QuickType, qui va reconnaître les différentes langues, donc on n'aura pas forcément besoin de changer de clavier pour passer d'une langue à l'autre, ou en tout cas il va pas vous suggérer une correction si vous mettez un mot anglais dans une phrase en français. Il y a des avancées sur les photos qui vont avoir une sorte de machine learning comme on le voit déjà depuis longtemps sur Google Photos, donc il va vous faire des suggestion de contenu qui va reconnaître les visages, reconnaître les lieux et puis vous créer des, ce qu'ils appellent des memories, donc des moments mémorables peut-être, des collections comme ça sur vos voyages, sur vos collections de photos, et tout est géré avec une intelligence artificielle locale, c'est-à-dire qu'il passe un petit peu à côté des problématiques de vie privée en n'envoyant pas les données sur des serveurs. Il y a bien sûr des gestions de données et de la reconnaissance avec du deep learning, du machine learning qui est fait sur les données en gros, mais ils ont précisé un domaine de recherche dans lequel ils investissaient beaucoup et qu'ils implémentaient aujourd'hui qui s'appelle le differential privacy, qui est en fait un moyen d'extraire des données statistiques de groupes de données spécifiquement sans pouvoir retirer les informations sur l'un des éléments de ce groupe de données. En gros, c'est un domaine de recherche très pointu, très spécifique, qui rend impossible, mathématiquement impossible, le fait d'extraire des données individuelles à partir de données de groupe. Et ils investissent beaucoup là-dedans. Ils ont parlé à l'un des chercheurs qui est un leader dans le domaine, et il y a un article indépendant par Wired qui détaille la chose. Je vous invite à aller le lire. Il est très intéressant, qui détaille la chose. Et ce chercheur dit, bon, sans être catégorique, il dit oui, il semble qu'Apple implémente les choses bien et fasse les choses comme il faut dans ce domaine. Donc c'est pas juste là, vraiment, je crois que bon, il faudra voir exactement comment c'est implémenté, mais je pense vraiment qu'on peut dire que c'est pas juste un discours marketing, parce que c'est leur intérêt financier. Je pense que Jérôme t'en parlera un petit peu plus tard. Ils veulent bien faire les choses et bien implémenter la chose, et c'est ce qu'ils recherchent, et c'est une recherche spécifique pour ça. Donc c'est pas juste une description relation presse, on va dire. Je continue, excusez-moi, ça va être un petit peu long, mais je vais tout vous donner en vrac, là ça va aller un peu plus vite. Apple Maps ouvert aux développeurs aussi. Il y a plein de choses en plus sur Apple Maps, là encore, qu'on avait sur Google Maps depuis très longtemps, des suggestions, la possibilité d'avoir des applications pour réserver dans un restaurant par exemple, la mise à jour de la circulation en temps réel, etc. Refonte de l'application musique qui est entièrement redesignée, qui inclut par exemple les paroles. Refonte d'Apple News qu'on n'a pas ici, donc c'est pas forcément hyper intéressant. HomeKit qui inclut une application Home de laquelle on va pouvoir contrôler tous ces accessoires intelligents dans la maison. C'était une direction dans laquelle ils allaient au tout début, et puis finalement ils sont allés en retrait par rapport à une application, mais finalement ils y reviennent. Donc une application pour contrôler tous ces accessoires, qui inclut d'ailleurs Siri et les notifications riches. Il y a plein de nouvelles catégories qui sont incluses dans HomeKit, des caméras, des door locks, des serrures intelligentes. Et l'Apple TV sert de base dans votre maison pour contrôler tout ça, même quand vous n'y êtes pas. Donc ça, c'est assez logique, hein. L'Apple TV qui est toujours présente et qui est toujours connectée et allumée, en fait, même en veille. Donc elle peut contrôler votre maison. Pour le téléphone, il y a la transcription des messages qui sont laissés de manière à ce que vous n'ayez même plus besoin de les écouter. Ils sont transcrits en texte. Il y a l'identification du spam téléphonique qui est un gros problème depuis un ou deux ans, même en France. Il y a un service qui j'espère va être implémenté en France aussi, qui aide à identifier les potentiels numéros que vous connaissez pas en tant que spam. Il y a une meilleure intégration des applications tierces en VoIP qui vont, par exemple, au lieu d'avoir une simple notification quand quelqu'un vous appelle sur Skype, vous allez pouvoir enfin avoir la photo de la personne qui s'affiche avec un vrai appel, quoi, pas juste une notification pour Skype ou pour WhatsApp ou pour toutes ces autres applications. Quoi d'autre encore? iMessage qui a énormément de changements, qui nous rappelle énormément ce qu'on a vu avec l'application Hola de Google il y a deux semaines. C'est incroyable comme ils sont allés dans les mêmes directions. Il y a des choses comme des différentes manières d'envoyer des messages qui vont apparaître plus gros ou plus petits, des effets visuels qui vont apparaître sur tout l'écran, le fait de
Snapchat
pouvoir...
pour adultes, c'est le meilleur
c'est
résumé.
C'est un petit
Snapchat
peu ça, ouais,
pour
Snapchat
adultes.
Pour adultes. et puis surtout, la possibilité d'avoir des applications pour iMessage. Là encore, une plateforme iMessage qui va permettre d'avoir des stickers, des apps de paiement, etc., etc. Donc, il y a des apps dans iMessage. C'est assez fort, etc., etc. Quoi d'autre encore? Bon, il y a plein d'autres petites choses dont on pourrait parler.
La transcription des messages vocaux, Patrick. Je l'ai dit. Vous laissant... Ah, tu l'as dit, pardon.
Je l'ai dit, ouais, effectivement. donc voilà, il y a plein de choses. La possibilité de supprimer les applications Apple par défaut de votre téléphone. Donc, elles sont maintenant dans l'App Store, mais ça veut dire que vous pouvez les supprimer puis les réinstaller. Plus besoin de les ranger dans votre répertoire application pourrie Apple dont je me sers jamais. Enfin, vraiment plein de choses. Je pense que j'ai assez parlé. Je vous laisse la parole. C'était très dense.
Il y a juste un dernier truc dans l'index. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est aussi le autour du langage de programmation Swift et notamment un programme pédagogique pour les enfants sur iPad qui va s'appeler Swift Playground, qui va permettre aux enfants de s'initier à ce langage de programmation qui, rappelons-le, même s'il est hautement patronné par Apple et poussé, reste quand même un langage open source, et qui a l'air d'être un langage qui intéresse de plus en plus de monde, un langage de programmation.
Tout voilà. À fait, ouais. Voilà, donc c'est un gros résumé hein, d'iOS 10 qui était vraiment l'énorme morceau de cette conférence. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous? Tiens, commençons par Benoît, puisque Jérôme vient de parler.
Ouais, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui sur lequel tu t'es arrêté, c'est le fait de traiter certaines données en local. Pour mettre en contexte, ça se rapproche de ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire une façon de voir le cloud où on traite les données directement là où elles sont produites. Alors, c'est vrai pour la montre maintenant, mais c'est vrai aussi quand on pense à l'industrie 4.0, comme on l'appelle. Donc, on va essayer de rendre intelligents les objets, mais aussi capables de traiter les données. Puis après, ce qui nous intéresse, on le remonte. Et il y a un changement
de
paradigme.
C'est pour ne pas avoir à faire appel au serveur systématiquement, c'est ça, pour pas systématiquement envoyer vers Google ou Amazon ou ce que c'est.
Tu gagnes beaucoup de flexibilité, tu perds, alors en général, tu as des risques que ça ne fonctionne pas sur une unité, mais si ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup moins grave que si ça ne fonctionne pas dans un système plus centralisé.
Donc, et ça, c'est possible uniquement maintenant, surtout avec les appareils mobiles, maintenant qu'on commence à avoir une vraie puissance de calcul significative sur nos mobiles, j'imagine.
Voilà, et puis Apple avait déjà montré la voie là. Avec le traitement justement de la voix, ils ont du hardware spécifique pour ça. Là, ils continuent dans cette donnée. On va voir maintenant, on a avec Google TensorFlow des chips qui sont faits vraiment pour ce qui est intelligence artificielle. Et donc là, à mon avis, ça peut paraître comme ça, comme une des nombreuses caractéristiques qu'ils ont annoncées, mais vraiment, on voit le futur de tout. Et je me réjouis beaucoup de voir jusqu'où on va pouvoir aller dans ces tendances, parce qu'on va avoir de plus en plus de choses connectées sur nous et qui pourraient servir à ce edge computing. Donc pour moi, ça, c'est la grande nouvelle. Bon, c'est peut-être le côté un petit peu ingénieur-codeur qui parle, mais j'ai trouvé ça excellent.
Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que depuis, on va dire, 20 ans, la tendance est au traitement des données dans le, bah, sur les serveurs distants. Et c'est quelque chose qui non seulement rend les, pose des problèmes de vie privée dans une certaine mesure, mais aussi nous rend très dépendants de ces serveurs et met le pouvoir, en quelque sorte, si on veut voir les choses d'une manière presque politique, mais en tout cas sociétale, met les serveurs, donne le pouvoir aux serveurs distants. Et dans la manière dont on envisageait Internet à sa création, c'était pas tout à fait comme ça qu'on y, bah, c'était même pas du tout comme ça qu'on y avait pensé. Et alors, ça veut pas dire qu'on se redirige vers une vraie décentralisation. On n'y est peut-être pas encore non plus, mais c'est une tendance qui va un petit peu dans cette direction. Et grâce à l'augmentation de la puissance de calcul de toutes ces petites machines qu'on a partout, c'est vrai qu'on peut faire des calculs d'intelligence artificielle qui sont très gourmands en local et que ça ouvre ce genre de possibilités qui étaient vraiment inimaginables il y a 5 ans, quoi. Donc, ouais, c'est une tendance particulièrement intéressante.
Ouais, moi, Jérôme. Ben, j'abonde exactement dans ce sens, mais d'un point de vue marketing, c'est ce que je disais aussi. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ce que j'ai retenu de cette keynote quand ils ont surtout présenté iOS. Les choses sont devenues claires, elles l'étaient déjà pour nous, mais je trouve clair pour le grand public, c'est qu'aujourd'hui Apple se positionne en alternative. À Google. On va pas dire en ennemi ou en opposé, mais en gros, le marché devient très clair. Si je veux bénéficier de super services, prenons par exemple la reconnaissance des photos, soit j'ai des services gratuits Google, mais on le sait aujourd'hui, qui ne sont pas gratuits, puisque je paye avec mes métadonnées que Google va vendre ensuite, va vendre ses informations pour faire son business. Ce en quoi il y a pas de mal absolu, mais c'est une manière d'envisager effectivement l'informatique. Et de l'autre côté, on va avoir Apple qui va nous dire on peut faire à peu près les mêmes services, mais en vous garantissant une chose, c'est qu'on vend pas vos données. Parce que nous, on n'a pas besoin de les vendre, on vend nos produits suffisamment chers comme ça. On va pas en plus développer un business model autour de la vente de vos données. Et ça, j'y crois, parce que Apple n'aurait aucun intérêt à vendre nos données, puisqu'aujourd'hui, c'est leur force marketing. Et on sent que ça fait déjà 2-3 ans hein, que Tim Cook, par des petites phrases et des petites piques vers Google, va dans ce sens-là. Mais là, ça a été clairement annoncé à la fois par les technologies dont Benoît vient de parler, dont tu as parlé, mais également par cette phrase qui a été prononcée à la fin, « Great features and privacy ». Donc on sent que là, Apple a un boulevard marketing tout tracé. Vous voulez garder votre vie pour vous, acheter Apple. Voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est très certainement la tendance qu'on observe depuis un moment. Je crois que la grande question maintenant va être de savoir s'ils peuvent réussir à nous proposer ces great features, ou en tout cas, je pense qu'il sera compliqué pour eux de proposer des fonctionnalités aussi complètes et intéressantes que Google. Mais par contre, est-ce qu'elles seront suffisamment bonnes grâce à cette differential privacy là dont on parlait? Est-ce qu'elles seront suffisamment bonnes pour qu'on se dise bon bah je préfère quand même ne pas donner toutes mes données à Google ou que certaines personnes se disent ça.
Tu vois, donc,
faudra voir, mais c'est sûr que l'effort est là.
Hier soir, c'est ce que je disais quand on m'a demandé ce que tu as préféré, Google I.O. à la WWDC. J'ai dit, en fait, Google I.O., ils vont beaucoup plus loin, c'est plus le futur, j'ai trouvé ça plus excitant, mais j'ai quand même cette petite voix dans la tête qui, à chaque fois que je vois un super service Google, fait dire je vais le payer combien en métadonnées. Enfin, en gros, qu'est-ce que je laisse à Google pour profiter de ce service? Et donc, je reprends l'exemple des photos. Google Photos, quelque part, m'enthousiasme plus que photos d'Apple, parce que je pense qu'ils pourront aller beaucoup plus loin en ayant beaucoup plus de données que n'auront Apple. Mais d'un autre côté, j'ai pas tellement envie que Google ait toutes mes photos. Voilà, c'est psychologique. Voilà, ça résume un petit peu bien les choix qu'on aura à faire en tant que consommateur.
Pour ma part, je dirais qu'il y a, bon, évidemment, cet élément est essentiel, hein, vous en avez beaucoup parlé, donc je vais pas répéter. L'écran de veille, mine de rien, et les notifications riches sont quelque chose qui m'a pas mal enthousiasmé. Je pense que c'était un des manques d'iOS, enfin, c'est un des manques d'iOS par rapport à Android. depuis longtemps, et là c'est encore une chose qu'ils sont en train de d'essayer de grappiller pour l'implémenter dans leur OS. Donc c'est quelque chose qui m'a assez enthousiasmé, ça a l'air assez sympa, mais surtout si on veut parler de la tendance de l'industrie encore, l'ouverture de Siri, l'ouverture d'Apple Maps, l'ouverture d'iMessage pardon, avec ce qui devient carrément une plateforme, c'est quelque chose d'essentiel dans cette conférence. C'est vraiment, alors évidemment la conférence est destinée aux développeurs, donc ça surprendra personne, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important, parce que Apple est très clairement veut garder la main mise sur son OS, une main de fer sur son OS, et là ils ouvrent encore un petit peu plus la porte. Alors ils gardent, ils font les choses à leur manière, hein. Ils sont ils gardent un petit peu plus de contrôle que les autres, qu'Android, mais il n'empêche qu'ils ouvrent encore un petit peu plus. Et j'irais pas jusqu'à dire que ça uniformise les OS, même si c'est vrai qu'on commence à retrouver les mêmes types de fonctionnalités un petit peu partout. Il y a quand même ce cœur de philosophie du côté d'Apple et du côté de Google, avec du côté d'Apple privilégier l'expérience utilisateur, du côté de Google privilégier la personnalisation de votre expérience, et je me demande dans quelle mesure ils vont réussir, Apple, à rester fidèles à leur philosophie de base en réussissant à proposer cette ouverture aux développeurs. Donc, mais en tout cas, ils ont pris un énorme, ils ont fait un énorme pas en avant dans la direction de l'ouverture de leur OS pendant cette conférence, et c'est un plus grand pas que ce qu'on avait vu, je pense, depuis le début d'iOS. Chaque année, il y avait un petit peu, mais là, c'était très significatif, quoi.
C'est assez admirable, c'est vrai, le changement qui est en train de se passer chez Apple. Même Microsoft a quand même embrasse de plus en plus ce qui est ouvert. On voit un peu la même tendance chez Apple. Je trouve que c'est bien. Ce que j'aime bien faire quand il y a des annonces comme ça, c'est retourner, lire les nouvelles d'il y a quelques années. Typiquement, Siri, on était 2010-2011, hein, quand ils l'ont acheté puis lancé. Et c'est vrai que là, il y avait vraiment une demande. Les développeurs étaient chauds bouillants pour y aller, pour créer des choses avec Siri. Il a fallu quelques années quand même. On y arrive. C'est une excellente nouvelle. Par contre, je suis comme toi, il faudra voir vraiment à quel point, qu'est-ce que ça veut dire ouvert et jusqu'où ça ira.
Ouais. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour la WWDC. On va conclure ce petit segment. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on passe à l'essentiel de l'E3?
J'aimerais peut-être vous entendre sur une note globale. Moi, je dois dire, j'arrivais pas au bout. J'ai décroché, quoi. Je trouve pas que c'était, pour moi, c'était pas très intéressant globalement, même si on a là ponctuellement des choses qui valent vraiment la peine. Mais où est le temps où on pouvait se réjouir de regarder une WWDC?
D'accord, Jérôme.
Je pense que déjà l'excitation qu'on peut, on n'est pas à la même époque. On sait aujourd'hui que les smartphones dans leur ensemble, hein, Android et iOS, c'est des produits moins excitants qu'autrefois. D'une manière générale, je dirais pas que la tech s'embourgeoise, mais il nous en faut maintenant quand même beaucoup plus pour hausser le sourcil. Après, moi, j'ai trouvé que c'était quand même, alors peut-être que j'étais dans de bonnes dispositions hier, j'ai trouvé au contraire que c'était une keynote assez intéressante, de par sa richesse, plein de micro-réglages, mais des choses assez libératrices. Je vais pas dire que je sentais le carcan du pigeon doré exploser que j'étais, mais on se dit, il y avait des moments, je disais, enfin, quoi. Ils ont mis le temps, comme tu disais, et moi j'ai beaucoup aimé que Microsoft aussi sorte de ce truc. Il faut absolument que ça tourne sur Windows Phone et se mette à développer des choses pour iOS. Que Android, qui l'a toujours fait, et Google a toujours développé sur iOS. Moi j'aime bien quand la concurrence, finalement, ils font tous la même compète, mais ils se développent des trucs les uns sur les autres, quoi. J'aime pas la concurrence cloisonnée où chacun reste chez soi. J'aime la concurrence que le meilleur gagne. Et j'en ai rien à foutre que Photo reprenne des fonctionnalités de Google Photo. S'ils les font mieux et différemment, etc., c'est ça qui me stimule. Et en ça, je l'ai trouvé stimulante. Après, c'est pas non plus effectivement une WWDC qui m'a fait dire oh, on passe un cap, quoi. C'était pas. Il n'y avait pas une grosse annonce, effectivement.
Ouais, moi je suis un petit peu plus à. Alors je sais pas si on dit à l'ouest ou comment, de Jérôme. C'est-à-dire que je suis encore plus. J'ai encore plus marché dans le truc. Je sais pas si c'était la fatigue parce que je le voyais après trois conférences de l'E3 à 2h du matin avant la conférence Sony qui commençait à 4h, tu vois. Mais j'ai été moi j'ai marché dans le truc. J'ai trouvé que les nouveautés de WatchOS étaient intéressantes, que les nouveautés de macOS étaient intéressantes, que iOS était vraiment un gros truc. Ce dont on a parlé, le differential privacy, j'ai trouvé ça également intrigant. Enfin, non, moi j'étais assez. Peut-être que je fais pas partie de ces gens qui attendent la révolution à chaque conférence. Je crois qu'il y a des gens qui sont toujours déçus si on n'a pas un nouveau truc incroyable. Peut-être parce que je suis un petit peu plus amateur de tech que le commun des mortels. Il y a des petits détails qui n'intéresseraient pas les gens normaux, entre guillemets, qui, moi, m'excitent un petit peu plus. Donc, non, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était une très bonne conférence. Comme la Google I.O. d'il y a deux semaines, je les ai trouvées hyper dynamiques, hyper intéressantes toutes les deux, quoi. Donc, non, moi, j'ai marché. Bon, donc, voilà pour la WWDC. Passons à l'E3. Dont on va vous toucher un mot. Comme je vous disais, il y a eu donc un certain nombre de conférences ces derniers jours, très tournées. Enfin, évidemment, ça parlait énormément de jeux vidéo. On va pas vous parler de tous les jeux, enfin des jeux qui sont sortis. Je vais plutôt parler un petit peu de matériel et de l'influence du marché des smartphones sur le marché des consoles. Alors, si vous voulez tous les détails sur l'E3 et sur les jeux et toutes les annonces qui ont été faites, bien sûr, on fera ça dans le rendez-vous jeu qui sera disponible demain ou après-demain. Ça sera enregistré évidemment après toutes les conférences et on vous détaillera tout ça. Il y a eu des choses hyper excitantes, il y a eu des trucs assez fous, exactement la fête du jeu vidéo qu'on attend qui se sont produites. Mais par contre, au niveau de la tech spécifiquement, je pense qu'il y a eu des choses très intéressantes pour les consoles avec d'une part Sony qui a confirmé les rumeurs de la nouvelle version de la PlayStation 4, qui serait la PlayStation 4 Neo. Ils l'ont confirmé dans une interview avant l'E3, mais la console elle-même n'était pas présentée à l'E3. Donc, il y aura une nouvelle console PlayStation 4 qui sera compatible avec les jeux de la PlayStation 4 actuelle. Donc, une simple évolution de la console, mais pas un passage de génération, contrairement à ce qui se fait traditionnellement dans le marché des consoles. En contrepartie, ça arrivera beaucoup plus vite qu'une nouvelle génération ne serait arrivée, c'est-à-dire au bout de 3, 4 ans, peut-être 5, ce qui est à vrai dire le rythme des anciennes générations. Au tout début, c'était à peu près tous les 5 ans. Donc, il y a Sony, d'une part, qui a annoncé ça, et d'autre part, Microsoft a annoncé, d'une part, une Xbox One Slim, donc une version plus petite de sa Xbox One, qui est à peu près au niveau de puissance de la Xbox One actuelle, mais qui a également annoncé la Xbox One Scorpio, projet Scorpio, qui arrivera, alors là, en fin d'année 2017. Donc, ils annoncent ça à un an et demi, c'est un petit peu étrange d'annoncer ça aussitôt, parce que du coup, est-ce que les gens vont pas se dire « bon, bah, je vais l'attendre, ça arrive dans un an et demi, mais en même temps, peut-être que j'en veux une maintenant ?» Enfin, bref. Et cette console sera même encore plus puissante que la PlayStation 4 Neo, selon les rumeurs qu'on a entendues. Donc vraiment un gros boost de puissance pour cette console. Et en même temps, Microsoft a beaucoup insisté sur le fait que une bonne partie de leurs jeux serait disponible sur toutes les consoles, bien sûr, mais également sur Windows, et qu'on pouvait jouer sur différentes machines, sur la console, sur l'autre console, sur Windows. On gardait pour les jeux compatibles possible les la possibilité de enfin le la progression dans le jeu, donc on pouvait passer de l'une à l'autre facilement. Bon, c'est un mouvement d'uniformisation de la part de Microsoft pour son pour ses consoles, et puis l'idée que on ne va plus avoir, est-ce que on ne va plus avoir à l'avenir besoin de changer de console. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais c'est pas comme ça que marchent les consoles, et donc qui sont pas contents. Moi, je trouve cette vision un petit peu limitée, je dirais. À mon sens, ça suit, comme je l'évoquais, le business, enfin le modèle des téléphones, sauf que au lieu d'avoir un nouveau téléphone tous les ans et qu'il soit compatible avec les appareils d'avant, ben là, Jérôme, on t'entend faire beaucoup de bruit là. Je sais pas ce qui se passe.
Ah pardon.
au lieu que ça soit un appareil tous les ans, ben là, ça serait tous les 4 ou 5 ans. On n'a qu'à y gagner parce qu'on va garder les mêmes logiciels et puis. Enfin, moi, ça me paraît pas être une mauvaise chose, quoi, cette histoire dans l'ensemble. Je sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Vous êtes peut-être un petit peu moins joueur que moi, mais Jérôme.
C'est-à-dire, tu veux dire le cycle.
Les nouvelles consoles qui sont pas un changement de génération, mais qui gardent les mêmes jeux, qui ont des fonctionnalités supérieures, qui les poussent un petit peu plus, et les développeurs peuvent développer pour ajouter des fonctionnalités à cette nouvelle console, mais les jeux sont toujours jouables sur toutes les versions de la machine, un petit peu comme tu as ton Android d'il y a 2 ans et ton Android de maintenant, bah ils vont faire tourner les mêmes apps, mais un petit peu mieux ou un petit peu moins bien en fonction de la puissance de la machine.
Je trouve ça pas bien.
Oui.
Non, mais alors moi je suis pas du tout console, hein, donc j'ai un regard extérieur sur le marché des consoles. Mais ce qui est toujours très rassurant dans le marché des consoles, moi qui suis plutôt un gamer PC, c'est que le gamer PC, on est constamment dans cette angoisse de se dire oh, le prochain gros jeu qui va sortir, ma machine va jamais arriver à le faire tourner et je vais pas l'avoir en full res machin etc. Et c'est des angoisses parce qu'on se dit oh là là, il va falloir encore que je renouvelle mon matos, retrouver une carte graphique etc. qui marchera pas. Bref, il y a toujours ce côté rassurant des consoles d'une certaine uniformité du hardware. Et je vais pas dans le sens de ce que tu as expliqué toi, mais c'est plutôt le fait qu'il y ait des consoles qui soient un tout petit peu mieux que les autres, qui vont offrir certaines fonctionnalités. Ça va justement amener dans le monde des consoles cette frustration hardware qui était spécifique au PC. Et du coup, je trouve ça pas bien. Parce que c'est pas bien pour les développeurs de jeux, c'est pas bien pour l'uniformité du marché. J'aimais bien finalement ce côté que les consoles, il y avait des gros changements. C'est quoi ? C'est tous les 10 ans, tous les.
Alors, tu sais, c'est ça qui est un petit peu. Je pense que les gens ont perdu de vue la chose. C'est que la dernière génération Xbox 360 et PlayStation 3 était restée pendant 8 ans, mais c'était une génération très très longue. Les générations précédentes, c'était plutôt 5-6 ans. Donc ouais. Là, la console Xbox One qui est sortie en 2013, fin d'année 2013, si on va à 2017, ça fait 4 ans plus tard et on a une nouvelle entre guillemets console qui arrive un petit peu plus tôt que les générations traditionnelles, mais par contre qui permet de ne pas avoir à jeter tous les jeux qu'on avait eu jusque là et au contraire la compatibilité est totale comme sur un PC effectivement.
Oui, mais t'as toujours ce côté de dire « Ah ouais, mais ceux qui ont acheté la nouvelle... » Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Il y a un côté «
Ah ouais, j'ai l'ancienne, ok, je peux faire tourner mon jeu, mais il est moins bien que ceux qui ont la nouvelle. » Et donc, si les cycles de renouvellement deviennent trop courts sur 2-3 ans, c'est pas bon pour le marché du jeu dans son ensemble, parce que du coup, une partie de l'argent est consacrée au renouvellement des machines. Tu vois, c'est là où je trouve que du coup, le marché des consoles perdrait quelque chose à raccourcir leur cycle de changement, en fait.
Je suis d'accord. Hein. C'est un argument qui est tout à fait valide hein, et qui se vaut tout à fait. C'est juste que d'un autre côté, on perd de cet aspect-là, mais on gagne aussi d'autres choses d'un autre côté, tu vois.
Mais je comprends bien le point de vue aussi. Ouais, mais...
À mon sens, le rôle des constructeurs sera essentiel dans les années à venir, dans les 2-3 ans à venir, justement pour rassurer les utilisateurs. C'est-à-dire que il faudra qu'ils soient absolument intransigeants sur la manière dont les jeux seront développés. Il faudra que les jeux soient développés en tirant parti maximum des consoles des premières versions et qu'ils soient également disponibles disponible sur les versions suivantes, mais il faudra pas abandonner les premières versions. Il faudra que les développeurs soient vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un processus de validation avec les consoles de jeux, contrairement au PC, et donc les constructeurs ont un regard sur ce qui va sortir sur leur machine. Il faudra qu'ils soient absolument intransigeants et que justement tous les jeux tournent bien sur toutes les versions et qu'ils tirent parti du matériel de toutes les versions. S'ils sont intransigeants comme ça, je pense que ça pourra rassurer les acheteurs et se dire, bon, ok, il y a une autre version qui est disponible 4 ans après que j'ai acheté la mienne, mais la mienne tourne toujours bien, donc bon, ça va. Mais c'est vraiment un gros point d'interrogation. Est-ce qu'ils vont réussir à être aussi intransigeants, quoi?
À voir.
Ouais, à voir. Petite note en plus sur la nouvelle petite, la Xbox One S, il n'y a pas de port Kinect. Il faudra passer par un adaptateur USB, mais donc le Kinect, c'est juste pour noter que c'est définitivement enterré sur console, quoi. Bon, bah écoutez, voilà pour les conférences qui nous ont occupés. Avant de passer aux news et rumeurs, je voudrais remercier Scomopolitan qui est venu sur iTunes pour nous laisser une petite review et 5 étoiles, qui nous dit que le podcast est super. Il dit « J'adore votre podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps. Si seulement je l'avais découvert avant !» Et oui, je comprends. Oui. Effectivement, c'est...
Si t'as pas écouté le rendez-vous tech à 40 ans, t'as raté ta vie, quoi.
Bon, mais j'aime beaucoup ce sentiment, tu vois, les gens qui découvrent l'émission et qui se disent « Oh, j'aurais pu avoir le plaisir du rendez-vous tech pendant si longtemps !»
Imagine le plaisir de remonter les archives quand Patrick aussi, ouais, parlait de l'arrivée d'Android ou ces choses-là, quoi, des grands moments de rendez-vous tech.
Ouais, je me souviens que dans les premières années du rendez-vous tech, j'expliquais aux gens ce que c'était que Twitter et pourquoi c'était sympa. Et ben, c'était un peu mon cheval de bataille à l'époque.
Ah, est-ce que tu fais pareil pour Snapchat maintenant?
Ah non, je suis trop vieux pour Snapchat. On m'a pas laissé rentrer, en fait. J'ai essayé un petit peu, mais ça n'a pas pris, on va dire. Bon, donc continuons avec les news et rumeurs, avec une grosse information qui est tombée hier justement. Le rachat de LinkedIn par Microsoft pour, tenez-vous bien, non pas 1, non pas 2, non pas 5, non pas 10, non pas 15, mais 26 milliards de dollars. 26 milliards! Je sais pas si...
C'est de l'argent de poche.
En fonction de l'inflation, c'est peut-être pas la plus grosse acquisition de Microsoft, mais enfin, c'est quand même... Et puis surtout pour LinkedIn, quoi. J'ai entendu beaucoup de gens... J'ai entendu les gens se gratter la tête. C'est dire s'ils se grattaient la tête avec force, quoi. Donc, est-ce que vous comprenez un petit peu la raison de ce rachat impressionnant, peut-être, Benoît?
Ah, moi, je suis... non seulement je comprends, mais je l'applaudis. Il y a un premium qui est payé, c'est normal. C'est pour faire passer... C'est une société qui est cotée en bourse. Hein, donc, si on veut faire passer la pilule, quand bien même, ils avaient déjà sécurisé assez pour le faire, mais enfin, ils l'ont fait de manière propre. Donc, ça ne va pas poser de problème. Tout le monde est content. Ils ont, d'une part, accès à un carnet d'adresses de fou avec le graphe qui va derrière. Donc, Dieu sait si on sait si ça a de la valeur. Et puis, il y a une perle qui est quand même cachée là-dedans.
Pourquoi la valeur, elle est où de ce graphe, de cette organisation, ce graphe organisationnel de toutes les sociétés du monde? Elle est où vraiment la valeur pour Microsoft?
Ah, mais si tu peux repérer les décideurs, tu sais, moi, si je dois vendre, et si tu peux me dire, voilà, tout le monde parle à lui ou tous les gens qui sont dans un domaine essayent de rentrer en contact avec cette personne, ça, c'est une valeur incroyable.
Qui sont les acheteurs informatiques de toutes les sociétés du monde pour vendre du matériel, c'est des fichiers qui valent extrêmement cher.
C'est une valeur de fou. Et en plus, c'est dynamique. C'est mis à jour pour toi.
Ouais.
Donc, c'est absolument génial. Mais la perle, peut-être, que je voulais dire, qu'il ne faut vraiment pas oublier et qui est aussi un énorme sujet, c'est Lynda. Et Lynda, oui. Donc, c'est la formation en ligne, hein, simplement, mais c'est aussi une tendance lourde. Donc, ils font d'une pierre deux coups et même d'une pierre beaucoup, beaucoup de coups. Alors maintenant, oui, c'est vrai, les gens disent « regardez Skype, regardez Yammer, tout ce qui touche, ils le transforment en boue.
Ouais, » Enfin, bon, regardez d'accord. Nokia surtout, c'est l'exemple récent de... Ça paraissait être un gâchis, je ne sais plus combien ils avaient payé, 2 ou 5 milliards, ça paraissait un gâchis. Là, mais bon, c'est intéressant la manière dont vous le décrivez. Vous me convainquez un peu. Hein.
Ah non, bah, mais tu devrais être convaincu.
Vas-y, Benoît, finis,
Benoît. On fait la deuxième couche et puis après, si besoin, on reprend.
Vas-y, Jérôme.
Moi, je dois déjà faire un disclaimer. Comme je suis actionnaire de LinkedIn, bien évidemment, j'ai été plutôt contente de cet achat. L'action a pris 46,64% une journée hier. Elle était très basse. Donc, d'un point de vue strictement boursier, c'est un joli coup de Microsoft. Ça peut paraître très cher, 26 milliards de dollars, mais l'action était relativement basse. Ça ne donnait, si pour donner une référence, l'action de LinkedIn est montée, je crois, en 2014, je crois, jusqu'à 258 dollars l'action. Et là, Microsoft aurait dû la payer, allez, 3 ou 4 fois plus cher, la boîte. Elle était beaucoup plus valorisée à la bourse. Là,
tu veux dire qu'elle était à 250 dollars l'action. Aujourd'hui, elle est à 60, quelque chose comme ça?
Là, avec les 46% d'augmentation d'hier, elle est à 192. Ce qui veut dire, grosso merdo, je pense que... Je crois qu'elle était, elle devait être à 100, 110 ou quelque chose comme ça avant le rachat. Donc deux fois moins cher, enfin plus de deux fois moins cher que le plus haut où elle a été en bourse, quoi. Donc c'est plutôt une bonne affaire s'il la voulait. Après, moi, l'analyse, elle est peut-être un petit peu différente. Effectivement, c'est pas si bête. Et il y a beaucoup de potentiel à LinkedIn. Je dis pas ça uniquement parce que j'en suis actionnaire. Il y a beaucoup de potentiel. Ce n'est pas qu'un réseau social. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient ils ont acheté leur réseau social. LinkedIn, c'est un petit peu différent dans le sens où pour la majorité des gens, c'est un endroit où on met son CV et on s'y intéresse que quand on cherche du boulot. Mais c'est déjà pas mal parce que ça nous y fait revenir par rapport à d'autres réseaux sociaux.
On n'a pas de raison de revenir une fois qu'on...
De revenir. Donc ça, c'est déjà intéressant en soi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait des rumeurs que Microsoft était en discussion avec un monstre encore beaucoup plus gros que LinkedIn qui s'appelle Salesforce. Et qu'il y avait des négociations de rachat qui, on parlait de 50 à 70 milliards de dollars. Salesforce est beaucoup plus gros que LinkedIn et une puissance de frappe. Et d'après toujours les rumeurs, ça aurait tourné court ce rachat. Salesforce se disant qu'ils n'ont pas besoin de Microsoft pour continuer. Et donc, on peut y voir presque un achat de dépit LinkedIn. Oh, on n'a pas réussi à avoir Salesforce. Bon, on rachète LinkedIn. C'est un peu caricatural, mais il fallait absolument...
Et pourquoi Microsoft... pas les deux? Est-ce qu'ils ont du cash, hein?
Mais ouais, ils ont du cash. C'est vrai qu'ils pourraient acheter les deux. Ils pourraient. D'après ce que j'ai entendu, c'est que Salesforce demande trop. Et eux, ils demandent 70 milliards de dollars. Et Microsoft veut pas payer 70 milliards de dollars. Parce que ça les mettrait quand même en position de fragilité là. Oui, peut-être qu'il y aura les deux. Mais de toute façon, c'est plutôt un bon mouvement pour Microsoft parce que, comme le disait Benoît, il y a plein de cercles vertueux dans ce rachat. Ça va permettre d'avoir un fichier à qui on pourra vendre du Microsoft 365, de la formation derrière, repérer les experts des différents produits Microsoft dans la base de données de LinkedIn, faire de la publicité. Enfin voilà, il y a énormément de cercles vertueux.
Je suis pas sûr que ça soit un fichier qu'ils aient acheté pour récupérer, pour pouvoir vendre leur Office 360. C'est plus pour proposer des services, justement, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus pour proposer des services par rapport à LinkedIn où tu vas pouvoir, effectivement, avoir accès à ces gens-là pour le public, c'est des services.
Mais ils achètent aussi une régie, ils achètent un service de news. Enfin, LinkedIn, dans le monde quand même professionnel et surtout anglo-saxon, c'est vrai qu'en France, on a une vision un petit peu tronquée de LinkedIn parce qu'on a eu Viadeo. Et beaucoup de gens ont fait du Viadeo et pas forcément du LinkedIn parce qu'ils trouvaient ça redondant. Mais c'est très puissant LinkedIn dans le monde du travail anglo-saxon.
Et puis juste un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'on peut vraiment en ajouter plein, c'est le Sign In with LinkedIn, que j'utilise moi régulièrement, que Microsoft n'a pas encore, mais qui vont pouvoir pousser maintenant dans quelque chose auquel les utilisateurs sont déjà habitués. Donc il y a vraiment toutes sortes de pièces du puzzle qui manquent à Microsoft qu'ils ont pris d'un coup.
D'accord. Bon, très bien, merci pour cet éclairage éclairé, messieurs.
Voilà, là, on peut dire qu'on était fans. Hein.
Ouais, oui, là, j'étais un petit peu surpris. Ah, mais...
Oui, attention, hein, c'est comme tout risque de rachat. Hein, LinkedIn ne va pas très bien en ce moment. Donc, c'est un bon achat, parce que acheter une boîte qui va pas très bien, ça te permet de la racheter à un meilleur prix que si elle rapporte beaucoup d'argent.
Oui, LinkedIn, c'est comme un appartement, si tu l'achètes alors qu'il a besoin de faire des travaux, tu fais les travaux et c'est bien. Si tu fais pas les travaux, ça peut, oui.
Bon, oui, il y a le risque que tu trouves des termites dans les murs, hein.
c'est ça. Voilà. Je pense qu'ils ont fait leur travail de recherche de termites avant, mais bon. D'accord. Écoutez, enchaînons avec une news sur les règles de gestion de l'incitation à la haine raciale sur les réseaux sociaux en Europe, avec une nouvelle qui, moi, m'a un petit peu, effrayé. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord entre l'Union européenne et Facebook, Twitter, Google et Microsoft pour que ces entités enlèvent elle-même les commentaires ou les contenus à caractère d'incitation à la haine raciale ou d'incitation à la haine, pardon, pas raciale, mais d'incitation à la haine sur leur plateforme. Et là où ça apparaît évidemment comme quelque chose de positif, et je le comprends tout à fait, mais là où ça me fait un petit peu peur, c'est que encore une fois, on est en train de demander à ces sociétés, donc des entités privées et des entités privées américaines qui plus est, de décider par des moyens qu'on va pouvoir peut-être essayer de contrôler ou vérifier, mais il n'empêche de décider de ce qu'on peut dire ou non sur ces plateformes qui sont utilisées évidemment partout dans le monde, en Europe et ailleurs. Et là où ça m'inquiète un peu, je sais qu'il est... C'est peut-être une vision de la chose qui est pas très populaire, ou en tout cas qui est pas très intuitive, parce qu'on se dit bah oui, enfin c'est inadmissible que des gens qui que des néo-nazis puissent raconter leur saleté sans être arrêtés sur des plateformes comme Facebook. Mais que fait la police, enfin, mais que fait Facebook, pourquoi est-ce qu'ils ne suppriment pas ces contenus? C'est facile de s'énerver pour ce genre de choses, mais moi je le vois de l'autre côté, c'est que on a déjà Google qui décide du droit à l'oubli, au-delà du fait que le droit à l'oubli soit une bonne chose ou pas, au-delà du fait que l'incitation à la haine raciale soit évidemment condamnable, le fait que ça soit Google qui décide, on va soumettre une demande et Google décide oui ou non, on va accepter de supprimer le contenu dans le cadre du droit à l'oubli. Ici, on va soumettre une demande et Facebook, Twitter, Google, Microsoft vont décider oui ou non, ça c'est du contenu qu'on doit supprimer ou pas. Ça me dérange. Alors évidemment, je comprends qu'il n'y a pas de solution idéale, parce qu'il faudrait, dans mon monde merveilleux de Patrick, où il y a des licornes et des arcs-en-ciel partout, il faudrait que la justice, donc que le judiciaire, décide pour chaque contenu problématique si oui ou non il faut le supprimer. Et je comprends que c'est tellement compliqué et tellement ça prend tellement de temps à faire que c'est irréaliste. Mais il n'empêche que le fait de s'enthousiasmer de cette idée que ces sociétés décident de ce qu'on va pouvoir dire ou non, je schématise volontairement, mais de ce qu'on va pouvoir dire ou non sur leur réseau, m'inquiète. Surtout que, oui, évidemment, quand quelqu'un va aller poster mort aux juifs, évidemment, c'est facile de décider si oui ou non il faut le garder. Mais par contre, combien de fois on a eu des levées de boucliers en Europe parce que Apple avait supprimé une app où on voyait un bout de sein, ou Facebook avait supprimé une mise à jour où il y avait un truc qui ne convenait pas. Et là, tout de suite, on va dire « Ah, mais ils veulent nous imposer leur morale américaine, voilà, nous on est européens et c'est pas du tout. » Bah oui, mais là on leur demande de faire la police directement eux et de décider ce qu'on va... Enfin bon, vous comprenez ma préoccupation.
Je pense que c'est simplement un cas du monde réel qui rattrape des sociétés tech maintenant bien établies. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si on parle du milieu bancaire, si on parle du milieu de la logistique, la poste et autres, ou même si on parle de la télévision avec le CSA, toutes les industries sont extrêmement réglementées. Alors de nouveau, après je suis d'accord avec toi, on peut le déplorer ou on peut s'enthousiasmer, mais c'est une réalité qu'on est dans un monde où les industries qui génèrent de l'argent sont extrêmement réglementées. Et là, ben, il n'y avait pas de raison qu'elle, c'est là un peu la loi de la gravité, ça, on peut pas y échapper. Et je ne suis pas surpris, la tendance est là, à mon avis, on ne va pas s'arrêter. Il va y avoir de plus en plus de contraintes pour ces sociétés, ce qui sera évidemment les opportunités des futures startups et autres qui prendront leur place.
Mais est-ce que je suis le seul à m'inquiéter qu'on notre liberté de parole, et encore une fois, je grossis le trait et j'exagère pour le principe, je suis même limite en train de troller, mais je suis le seul à m'inquiéter qu'on livre notre liberté de parole à des sociétés privées américaines? Enfin, je sais pas, moi j'entends personne en parler, ça me...
Non, je pense que t'as raison. Déjà, tu as raison, il faut se méfier avec cette notion d'incitation à la haine. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ce qui se passe et aller le mettre en Russie pour voir comment ça fonctionne. Généralement, les réactions sont pas du tout les mêmes. Il faut savoir, par exemple, qu'en Russie, en ce moment, il y a des blogueurs qui se font arrêter parce que ils écrivent des articles sur la Géorgie ou ce genre de choses qui sont considérés par le droit russe comme des incitations à la haine. Donc, ils se font emprisonner.
Ouais, ça va donc, même plus loin. Il y a des gens qui se sont fait emprisonner parce qu'ils avaient liké des articles de ce genre-là
ou retweeté. Et qu'un like peut être considéré comme de l'incitation à la haine. Donc, je trouve déjà qu'il faut beaucoup se méfier avec cette notion qui, de prime abord, semble simple de l'incitation à la haine, mais qui est très malléable, en fait, selon le gouvernement dans lequel on est et la stabilité politique du pays. Donc, c'est déjà des notions dangereuses à manier. Qu'est-ce qui est une incitation à la haine et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et qu'en plus, on confie, finalement, ce jugement à des sociétés, comme tu dis, américaines, qui ne sont pas... J'ai du mal à comprendre. Parce que là... les États-Unis sont l'empire du monde, ils contrôlent le monde, et à ce moment-là, allons-y franchement, quoi. Le président des États-Unis, c'est le président du monde, et on est tous américains. Il y aura les Américains de province et les Américains de l'intérieur, mais on est tous américains. Non, enfin, il y aura les barbares, exactement comme à l'époque romaine.
Ouais,
nous, on sera les barbares de l'empire américain. Pourquoi pas? C'est peut-être un choix de civilisation qu'on doit faire. Mais autant je suis le premier à dire, les vieux gouvernements qui ont rien compris Internet, il n'y a plus de frontières et le pouvoir est ailleurs. Là, c'est donner beaucoup trop de pouvoir, effectivement, à des sociétés américaines.
Ouais, mais je
suis d'accord avec toi, Patrick.
On est tous d'accord que c'est une question de degré. Tu postes une photo de chat, tu ne devrais pas aller en prison. Tu prépares un attentat via des réseaux sociaux, tu devrais y aller. Et c'est vrai que poser la frontière, bonne chance, quoi.
C'est toujours le même problème. Hein.
Je crois que là, une sorte de solution hybride, à vrai dire, malgré toutes mes plaintes, c'est dans le droit à l'oubli. En fait, ce qui se passe, c'est que généralement Google décide pour les cas qu'il considère comme clairs et les cas qui sont assez loin de cette ligne qui est difficile à poser, comme tu le disais, Benoît. Et donc, pour les cas clairs, bah oui, ils peuvent y aller, c'est bon, quoi. Effectivement, si on voit sur Facebook
m'envoie aux juifs, c'est effectivement un critère assez clair, quoi.
C'est ça, voilà. Mmh. Il y a des moments où je pense qu'on peut effectivement avoir une sélection des trucs qui sont clairs, des trucs qui sont pas clairs. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait une intervention des systèmes judiciaires dans le truc, peut-être pour les cas qui sont pas clairs. Mais le problème, c'est que là, du coup, les sociétés en question, pour ne pas se mouiller, vont peut-être en envoyer des centaines. Je comprends que c'est un problème insoluble. Mais c'est juste que j'aimerais qu'on fasse la remarque, qu'on se dise « Oui, ok, on a dû arriver à cette solution, mais... » On n'en est pas 100% satisfait. Moi, je n'ai vu que des « Ah, enfin, ces grandes sociétés qui laissent impunément ces contenus traîner pendant des jours et des semaines, enfin, on va les tenir responsables. » Et personne ne s'est arrêté pour dire « Ok, mais... » voilà, je veux juste qu'on... Je dis pas que je veux pas que ça se passe comme ça, mais il faut qu'on réfléchisse aux conséquences, quoi.
Un exemple assez clair de quand on voit qu'en France, on n'arrive même pas sur une affaire, nommons-le, hein, les vidéos de Dieudonné et ce que fait Dieudonné, l'État français se prend déjà les pieds dans le tapis. Et c'est les mêmes personnes qui vont être là sur l'ambivalence du discours et tout. Ils vont dire, oh, mais c'est que, ça craint quand même que YouTube permette que ces vidéos sortent. En gros, comme nous, on n'y arrive pas à résoudre le problème ou à fixer les limites, oh, bah, c'est à YouTube de censurer, quoi. C'est des raisonnements très bizarres, ouais, je trouve.
C'est compliqué. Ouais. Bon. Ouais. Bah écoutez, enchaînons avec Mark Zuckerberg qui visiblement avait un mot de passe super malin sur Twitter. Il s'est fait pirater son mot de passe qui était dadada, D-A-D-A-D-A.
Ah non, mais bon, c'est plus compliqué que tu ne le crois, Patrick. Parce que dadada, ça peut être dadadadadada ou dadadada. Tu peux mettre un certain nombre de dada. Tu peux jouer justement sur le nombre de dada.
Bah là, il y avait.
Et puis on le sait, le big dada, c'est quand même l'enjeu de demain. Il avait prévu des choses.
Pas mal, pas mal. Mais bon, en tout cas, c'était un compte qu'il n'utilisait plus depuis longtemps, et puis il n'a pas été piraté sur ses autres comptes entre guillemets importants. Mais oui, c'était marrant de voir qu'il avait utilisé sur Twitter dadada. Donc personne n'est à l'abri d'un mot de passe un petit peu trop simple. Donc pensez-y. Geeko sur le Reddit nous signale que Google a approuvé le traité transpacifique qui se développe toujours en secret, et ils ont quand même noté qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de transparence, mais ils l'ont approuvé. Je vais pas me lancer dans les débats sur le traité transpacifique, mais
tu l'appelles
Google
pas le TPP? Moi je trouve ça rigolo.
Si, le TPP, oui, c'est
le TPP de Google.
Bon, ils sont sûrement bien représentés, Google, hein, dans ces débats. Et puis j'aimerais quand même juste dire, hein, que c'est moi, alors là je suis assez clair là-dessus. Dans tous les traités du monde, il y a une partie où on négocie, et comme on a envie d'avoir de l'espace pour négocier, bah c'est derrière des portes closes, et puis après ça va dans les gouvernements et là c'est public. Donc c'est tout à fait normal que la première partie soit privée. Attendons de voir quand ça arrive devant les parlementaires pour s'énerver, je dirais.
D'accord, très bien. Bah justement, ceux qui sont énervés, c'est le fisc et les autorités françaises qui ont réclamé 356 millions d'euros à Booking.com et 900 000 dollars à Uber pour le service Uber Pop qui a opéré illégalement. Ça a été jugé illégal en France pendant quelques temps. Bon. C'est un petit peu compliqué de juger tout ça, parce que d'une part, j'ai envie de dire, bah oui, si les choses sont illégales, c'est normal que la justice s'en occupe. Et puis en même temps, ça s'enchaîne tellement depuis quelques semaines, les amendes et les trucs, et les spécifiquement sur les géants de la tech. Et je comprends pourquoi, on en a parlé plusieurs fois, le fait qu'ils détournent les histoires de travail. En fait, ils sont en Irlande, mais oui, mais non, mais on sait pas, etc. Mais en même temps, ça s'enchaîne depuis quelques semaines, et ça, je sais pas comment c'est vu de l'extérieur, mais moi je me dis, ça doit faire quand même un petit peu donner une impression d'hostilité du pays envers les grandes sociétés de la tech. Je comprends pourquoi
non,
ça se fait encore, mais je sais pas
exactement comment
Ben,
c'est perçu. Ouais. T'as tout à fait raison. C'est enfin même de pas loin, hein, de Suisse, c'est waouh quoi. C'est vraiment, comme tu dis, c'est une impression d'acharnement. Et puis avec derrière la French Tech qui vient se poser là avec un côté très étatique en disant voilà, c'est l'État, on va organiser les startups maintenant, on va faire collaborer tout ce monde. C'est vraiment de se dire déjà c'est un peu schizophrène, puis après faut laisser vivre un petit peu. Donc c'est vrai que c'est perçu de manière assez violente. Après voilà, il faudra voir si le jeu en vaut la chandelle, mais bon, moi je suis pas du dehors pas convaincu, hein.
C'est enfin bon, c'est le début des périodes électorales. C'est très effectivement, tu fais bien de le dire, Benoît, cette vision de l'État français qui a le contrôle et qui doit garder le contrôle. Et nous, on se laissera pas faire par des. Après, si la loi est la loi. Je veux dire, si ces sociétés ont effreint les lois fiscales de nos pays, je suis pas non plus pour ce qu'ont fait les Anglais des négociations qui font diminuer de 3-0 le chèque d'amende. Elles doivent payer si elles ont enfreint les lois. Mais moi, sur toutes ces histoires du sandwich irlandais, ces montages européens, je suis peut-être bête, hein, et un peu frontal et bas du front. Mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on laisse les pays européens développer autant de différences fiscales les uns les autres. Et après, on est tous surpris que des sociétés profitent des gouffres, enfin, je veux dire, des portes ouvertes. Alors, eux, ils appellent ça l'optimisation, mais dès que ça nous révolte, on dit ils ont triché. Mais une société, on va pas lui demander sciemment de payer le plus d'impôts possible, quoi.
C'est un petit peu.
C'est
comme
pas le fonctionnement d'une société. Il y a un moment, ça se marche sur la tête. En France, il y a quand même une vision un petit peu bizarre que les sociétés sont là pour faire fonctionner la société. Non, ça n'a jamais été le rôle des sociétés. Peut-être sous Talleyrand, sous Richelieu ou Mazarin ou des vieilles époques françaises, mais plus maintenant, quoi.
Ouais, voilà. À vrai dire, tu expliques très bien cette dualité, c'est que à la fois on a l'impression qu'il y a une sorte d'acharnement, et puis en même temps, on veut pas qu'ils puissent impunément faire des choses qui sont clairement illégales, et puis en même temps, on se dit il y a cette optimisation. C'est comme si on demande à un ménage au moment de payer ses impôts, bon bah voilà, vous avez deux parts, vous allez évidemment faire deux parts, vous allez pas décider ah oui mais je vais en prendre qu'une, tiens, je vais payer plus. Bah non. Évidemment que vous allez prendre tous les abattements dont vous disposez. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe. Alors oui, il y a des questions sur est-ce que le business de Google se passe effectivement en France ou en Irlande quand les gens qui vont vendre les services, les commerciaux sont en France et pas en Irlande. Et il y a des questions un petit peu plus subtiles qui peuvent se poser là-dedans. Mais d'une manière générale, la grande question, c'est effectivement cette question du double Dutch avec un sandwich luxembourgeois et je sais pas quoi. Enfin, mais clairement, il y a cette optimisation, elle existe parce que les lois fiscales, enfin les conditions fiscales sont comme ça. Et toutes les sociétés, toutes les grandes sociétés de la tech et même d'ailleurs qui n'ont pas du business physique dans les pays, enfin pas autant, bah elles ont des sociétés au Luxembourg, en Irlande, enfin. Toutes les sociétés, toutes les sociétés, c'est au Luxembourg. Donc,
allez demander à EDF, enfin des grosses sociétés françaises qui sont mondialisées, si elles font pas de l'optimisation fiscale, parce que voilà, on a souvent beau dos de dire ces méchantes sociétés américaines qui font de l'optimisation fiscale sur le dos des gentils français. Allez voir ce que font les sociétés françaises en optimisation fiscale dans d'autres pays, et puis on en reparle, quoi. Il y a un moment, la poutre dans l'œil du voisin. Bon, bref.
Il y a quand même un problème. Avec ça, c'est vrai, et c'est la double punition pour l'État. Hein. C'est-à-dire, bon, d'une part, ils ne payent pas leurs impôts, ça, on en a bien parlé, mais d'autre part, on délocalise les emplois. Donc, ça veut dire qu'on perd vraiment à beaucoup de niveaux. Et donc, si on arrive à punir, c'est-à-dire, ça, ce n'est pas possible de mettre les gens en Irlande et à vendre quand même chez nous, du coup, c'est évident que ces sociétés vont rapatrier une bonne partie des emplois en France, parce que pourquoi être loin de ses clients puis faire les allers-retours si on n'a rien à y gagner. Donc, c'est vrai que c'est un problème compliqué, mais en l'état,
ça peut être l'inverse aussi, c'est que ces sociétés gardent finalement des services minimums après dans nos pays, ne créent pas d'emplois.
C'est un petit peu ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Et puis, mine de rien, la France a, pour différentes raisons, cet avantage qu'elle est un petit peu incontournable. Et donc, toutes ces sociétés, et nombre d'entre elles, établissent leurs quartiers généraux en France, et elles sont toutes présentes en France pour des raisons qui s'expliquent. Et donc, il y a un petit peu aussi, effectivement, cette... on enfonce un peu les portes ouvertes, mais il est certain que ça fait pas plaisir de voir des sociétés qui ont un business énorme, qui sont hyper présentes sur le territoire, et puis qui, à la fin de l'année, vont déclarer $300,000 de chiffre d'affaires pour 25 milliards en Irlande. Et encore une fois, c'est un petit peu comme le problème de l'incitation à la haine. C'est un problème qui a pas de bonne solution. C'est un problème qui est insoluble parce que les choses font que voilà, ça se passe comme ça.
Il y aurait déjà une solution simple, c'est quand même de travailler au niveau politique sur des harmonisations fiscales et empêcher.
Alors là, le fait de dire que c'est une solution simple, je crois que des gens, quoi.
Ce que je voulais dire, c'est de attaquer les sociétés. Très bien, si elles ont enfreint la loi, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a un moment, c'est faire de l'homéopathie alors qu'on a la jambe qui saigne, quoi. On tourne autour du pot depuis 20 ans sur les problèmes d'harmonie fiscale en Europe, notamment. Il y a un moment, il va bien falloir prendre nos problèmes à bras-le-corps, quoi. Enfin bon, je suis peut-être utopiste. Ouais. Peut-être qu'il faut juste continuer à que ça soit le bordel.
Ouais. Bah écoute, mine de rien, c'est quand même une des remarques que je me fais depuis quelques temps, quelques années, c'est que malgré tous les bordels, et c'est vrai que c'est quand même souvent le bordel en France, on le voit depuis quelques semaines et quelques mois, malgré tous ces bordels, et ben mine de rien, on continue quand même à avancer et on avance pas trop mal. Donc je me dis qu'il y a une sorte de sauce magique dont je ne sais pas comment elle est faite dans notre pays et peut-être dans les autres, qui fait que ça marche malgré tout le bordel. Donc il faut un petit peu avoir la foi, peut-être.
Ouais, ou alors, non, mais on a une certaine dextérité à marcher dans la merde et au bout d'un moment, tu prends le pas, quoi. Et t'avances, t'arrives à mieux marcher dans la merde, quoi. Ça, c'est clair.
Bon, un petit peu d'optimisme et d'innovation. Microsoft a annoncé que Windows Holographic, c'est la plateforme de HoloLens, sera disponible et est désormais disponible pour ses partenaires. Donc, on s'approche encore plus d'un lancement, pas si loin que ça, quoi. Donc, il y a des appareils qui seront disponibles, assez vite avec des partenaires comme Intel, AMD, HTC, Acer, etc., etc., pour cette réalité augmentée de Microsoft. On a également une info sur l'acquisition de Google, de Nest par Google, qui s'est finalement assez mal passée. Et ça a mené au départ de Tony Fadell de Nest. Vous savez, Nest, bien sûr, c'est ce thermostat intelligent que Google avait racheté pour je ne sais plus combien de milliards de dollars. Et qu'ils ont, en fait, qu'il y a eu tellement de liberté qu'ils ont englouti des centaines de millions de dollars de budget sans rien produire depuis des années. Et là, du coup, Tony Fadell s'est barré. Il a dit oui, c'est temps pour moi de partir. En fait, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il a été viré. Et les employés de Nest partageaient même des images sur des sortes de mimes d'internet sur Nest et Google, enfin Alphabet aujourd'hui, qui étaient pas très reluisants qui se moquaient ouvertement de Tony Fadell. Bref, ça se passait pas très bien. Je sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, mais
que les moonshots de Google se passent pas très très bien, hein, et que je pense qu'ils sont quand même en train de revenir de cette façon de faire où ils veulent dorénavant peut-être plus investir intelligemment que comme ils l'ont fait pour Nest. Je pense que Nest était un des derniers investissements de ce type qu'on verra chez Google, parce que c'est vrai que c'était tout de suite gros, ils ont tout de suite voulu aller très vite, massif, dans un domaine qu'ils ne comprenaient peut-être pas très bien, qui n'avait pas vraiment de preuves. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire de Nest. Hein. Ok, le CEO est parti, ils l'ont remplacé. À mon avis, tous les problèmes sont là encore.
Google Soli est une interface gestuelle hyper intéressante qui vous permet en fait de contrôler des appareils électroniques à partir de votre poignet, enfin votre avant-bras. En tapant sur l'avant-bras, je me trompe. En fait, c'est une interface qui repère le mouvement de vos doigts. C'est hyper bizarre. Il faut voir la vidéo pour le comprendre. C'est Soli, S-O-L-I. Et vous pouvez faire des tout petits mouvements. C'est une interface à ultrasons, si je ne m'abuse. Et vous pouvez faire des tout petits mouvements avec vos doigts. Et il les repère. C'est juste, faut voir la vidéo, quoi. C'est hyper bizarre et c'est hyper intéressant. Et je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner comme application concrète. Facebook a annoncé Deep Text, qui est une sorte de compréhension intelligente du texte, un moteur d'intelligence artificielle qui va comprendre les significations et les sentiments dans le texte pour les chercher de manière plus efficace. Il y a des smartphones pliables qui pourraient arriver l'année 2017, donc différents types de smartphones pliables. Donc on entend parler des écrans pliables depuis longtemps. Bah là, ça arrive enfin. Asus a présenté un petit robot qui s'appelle Zenvo. Oui.
Ouais, juste sur les smartphones pliables, il y a un domaine. Si vous aimez ce genre de choses sur le matériel, allez regarder Soft Robotics. C'est tout un domaine où, en fait, on va pouvoir créer des exosquelettes, par exemple, qui, à la place d'être rigides, vont devenir souples. Et donc, cette problématique, disons, d'avoir des structures à la base rigides, des batteries, des bras robotiques, souples, c'est vraiment quelque chose qui va exploser dans les années à venir. Encore tout au début, mais vraiment que je trouve fascinant parce que c'est à la croisée de beaucoup de chemins. Donc, soft robotics.
Très bien. Oui, faites vraiment la recherche sur Google Soli, c'est intéressant. Soft Robotics, et puis Google, Facebook Deep Text, c'est encore quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette possibilité de comprendre si une mise à jour que vous avez mis est heureuse, déprimée, vraiment pour pouvoir pousser la recherche dans ces domaines-là, c'est hyper intéressant. Enfin, Aquatique sur le Reddit nous a mis un lien vers un article qui détaille le changement de, on va pas dire de position, mais de ton d'anciens grands responsables américains qui commencent à dire Snowden, en fait, oui, évidemment, ce qu'il a fait, c'était illégal, mais il a quand même provoqué une réflexion dans notre société qui était nécessaire. On sent que la société américaine, ou en tout cas les responsables, sont un petit peu en train de, je vais même pas dire de changer leur point de vue, mais d'admettre que ce qu'a fait Snowden, finalement, n'était pas un horrible acte de terrorisme, de trahison terroristique. Donc, on sent ce changement au cours des années. J'espère que ça va continuer dans cette tendance. Et enfin, Free French a mis en place une page qui détaille les offres de 4G disponibles aux étrangers qui vont venir sur Paris, enfin qui viennent sur Paris, et les différentes offres qui sont possibles à d'obtenir pour avoir de la data ou ce genre de choses. Ça peut être assez pratique. Bref, allez voir sur le Reddit, vous faites une recherche sur la page wiki pour conseiller aux étrangers qui viennent en France. C'était spécifiquement pour l'euro, on est encore à l'euro, donc ça sert peut-être encore. Il est disponible sur le Reddit, donc merci à lui d'avoir fait ça. Est-ce qu'il y a encore un truc dont vous voudriez parler, ou est-ce qu'on arrive au bout de l'émission?
Moi, on arrive au bout du temps imparti.
D'accord.
Consacré au rendez-vous tech. Donc, je vais rien ajouter.
D'accord, très bien. Benoît, autre chose? Est-ce que tu veux faire dépasser Jérôme juste pour l'emmerder?
Ah non, je resterai pour écouter Benoît, moi.
Ah, quand
c'est
même.
Ça. Non, j'aimerais qu'on reprenne un peu WWDC depuis le début. Parce que
un peu plus dans le détail. Je suis d'accord, on devrait détailler point par point exactement ce qui a été dit. Et c'est donc, ça. Une keynote de 2 heures, on devrait la décortiquer en 4. Quoi.
C'est ça, normal. Exactement.
Là, on a eu le sommaire de l'émission. Maintenant, on y va. Non, c'est très bien. Il y a évidemment des thèmes encore super intéressants, mais je pense qu'effectivement, on a eu une bonne dose déjà pour le plaisir, donc c'était bien.
Bon, très bien. Écoutez, merci à vous deux d'avoir participé. Avant de se quitter, évidemment, on va vous demander où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par Jérôme Kainborg.
Eh bien, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv, la chaîne YouTube, et également une émission tous les matins de la semaine à 8h qui s'appelle TechScope, et où je vous fais une revue de presse de la technologie commentée en direct par une merveilleuse chatroom.
Très bien, ça a l'air assez attrayant, j'avoue, comme programme. Ben.
Alors, sur niptech.com, niptech.com, et puis, comme on l'a, je crois, déjà mentionné, il y a toute la famille Nipcast encore qui est là. Vous avez des Nipsales, des Nipedu, enfin, vous trouverez d'autres choix comme ça. Et puis, pour les questions, commentaires, remarques, @bcurdy sur Twitter. Voilà. J'ai commencé à avoir de plus en plus de peine à donner mon Twitter pour communiquer. J'ai l'impression que ça fait vraiment vieux. Mais enfin, pour l'instant, faute de mieux, encore Twitter.
Si t'es pas sur Snapchat,
à 40 ans, t'as raté ta vie, c'est ça?
Non, ça veut dire que t'as 40 ans.
mais vous avez pas ce sentiment quand vous dites, ouais, faut contacter sur Twitter, l'impression d'être vraiment un petit peu dépassé?
Ah non,
ah
moi
bah
ça...
si, ça commence. Ah si, si, ça commence, oui.
Ouais, quand même, hein.
Oui. Non, non, moi, je suis toujours très content sur Twitter. J'ai Facebook aussi, mais ça aussi, c'est peut-être un petit peu dépassé. Le problème, c'est que Snapchat, c'est vraiment pas mon truc. Donc, peut-être que j'y viendrai un jour, peut-être. Non, mais t'es toujours actif sur Snapchat, la... Jérôme?
Non.
Ah, mais bah, voilà.
Non. Moi, c'est parce que avant, j'y mettais les coulisses de Naotech TV. Et maintenant, les coulisses, je les réserve aux gens qui me donnent de l'argent sur Tipeee. Donc, je les mets sur Slack. Donc, voilà.
Comprends.
Comme j'ai pas non plus 48 heures dans la journée à filmer le moindre sandwich que je mange, je peux le filmer qu'avec une seule appli, tu vois.
Oui, bien sûr.
Sinon, il faut que je mange 5 sandwichs. Le sandwich Instagram, le sandwich Snapchat, le sandwich pour le sac. Ça devient compliqué.
Bon, bah écoute, ça veut dire qu'en fait, tu restes sur Twitter, quoi.
Moi, Twitter, je le dis, hein, j'ai peur pour eux, mais j'ai envie que ça dure. Hein. Mais
ah
j'ai
bah
peur
oui,
pour eux.
D'accord. Bon, bah en tout cas, moi je suis encore fièrement sur Twitter sous le doux pseudonyme de NotePatrick. Je suis également sur Facebook sous le même pseudonyme de NotePatrick. Et vous retrouvez cette émission sur frenchspin.fr. Vous retrouverez également le rendez-vous jeu où, comme je le disais, on détaille peut-être un ou deux jours après la sortie de cet épisode tout le 3. Si vous voulez tous les détails de ce qui a été annoncé là-bas, il y a eu du lourd. Donc vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu là-bas. Et évidemment, si vous voulez participer au financement du rendez-vous tech, si vous estimez que vous passez un bon moment, si vous dites ouais, si ce rendez-vous tech, bah voilà, si j'ai par exemple mon café le matin et pour 1 euro de plus, j'aimerais bien avoir le rendez-vous tech, même un petit dollar, vous voyez, 1 dollar, c'est toujours précieux pour financer et pour aider le rendez-vous tech. Donc vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et on apprécie chaque contribution. Et comme vous le savez, j'adore tous mes contributeurs au Patreon. C'est grâce à vous que cette émission continue à exister et grâce à vous que cette incroyable entreprise du podcast est possible. Donc merci à vous tous. Si vous pensez que enfin, après des années d'écoute, c'est le moment de vous lancer, allez sur patreon.com/rdvtech. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Ciao à tous.
Salut tout le monde.